Chapitre 1. Journal de Jonathan Harker. Sténographié. Bistritz, 3 mai. Quitté Munich à 8h du soir, le 1er mai. Arrivé à Vienne de bonne heure, le lendemain matin. Nous aurions dû y être à 6h46, mais le train avait une heure de retard. À en juger d'après ce que j'en ai pu apercevoir du wagon et d'après les quelques rues où je me suis promené une fois débarqué, Budapest est une très belle ville. Mais je craignais de trop m'éloigner de la gare. Malgré ce retard, nous devions repartir comme prévu. J'eus l'impression très nette de quitter l'Occident pour entrer dans le monde oriental. Après avoir franchi les magnifiques ponts du Danube, ces modèles d'architectures occidentales, le Danube ici est particulièrement large et profond, on pénètre immédiatement dans une région où prévalent les coutumes turques. Ayant quitté Budapest sans trop de retard, nous arrivâmes le soir à Klausenburg. Je m'y arrêtai pour passer la nuit à l'hôtel royal. On me servit au dîner, ou plutôt au souper, un poulet au poivre rouge, délicieux, mais cela vous donne une soif. J'en ai demandé la recette à l'intention de Mina. Le garçon m'a appris que cela s'appelait du paprika Endel, que c'était un plat national et donc que j'en trouverais partout dans les Carpates. Ma légère connaissance de l'allemand me fut fort utile en cette occasion. Sans cela, vraiment, j'ignore comment je m'en serais tiré. À Londres, quelques mois de loisirs m'avaient permis d'aller au British Museum et à la bibliothèque, j'avais consulté des cartes de géographie et des livres traitant de la Transylvanie. Il me paraissait intéressant de connaître certaines choses du pays puisque j'aurais affaire avec un gentilhomme de là-bas. Je m'en rendis compte, la région dont il parlait dans ses lettres était située à l'est du pays, à la frontière des trois États, Transylvanie, Moldavie, Bucovine, dans les Carpates. Une des parties de l'Europe les moins connues et les plus sauvages. Mais aucun livre, aucune carte ne put me renseigner sur l'endroit exact où se trouvait le château du comte Dracula, car il n'existe aucune carte détaillée de ce pays. Mes recherches m'apprirent toutefois que Bistritz, où, me disait le comte Dracula, je devais prendre la diligence, était une vieille petite ville très connue. Je noterai ici mes principales impressions. Cela me rafraîchira la mémoire quand je parlerai de mes voyages avec Mina. Quatre races se sont implantées en Transylvanie. Au sud, les Saxons auxquels se sont mêlés des Valaques qui eux-mêmes descendent des Daces. À l'ouest, des Maillards. À l'est et au nord, enfin, les Séclairs. C'est parmi ceux-ci que je dois séjourner. Ils prétendent descendre d'Attila et des Huns. Peut-être est-ce vrai? Car lorsque les Maillards conquirent le pays au XIe siècle, ils y trouvèrent les Huns déjà établis. Il paraît que toutes les superstitions du monde se retrouvent dans les Carpates et ne manquent pas de faire bouillonner l'imagination populaire. S'il en est ainsi, mon séjour pourra être des plus intéressants. Je ne manquerai pas d'interroger le comte au sujet de ses nombreuses superstitions. Je dormis mal, non que mon lit ne fût pas confortable, mais je fis toutes sortes de rêves étranges. Un chien ne cessa durant toute la nuit de hurler sous ma fenêtre. Est-ce la cause de mon insomnie ou fût-ce le paprika? Car j'eus beau boire toute l'eau de ma carafe, la soif me desséchait toujours la gorge. Vers le matin, enfin, je me suis sans doute profondément endormi car je me suis réveillé en entendant frapper à ma porte et il me sembla qu'on devait frapper depuis longtemps. Au petit déjeuner, j'eus à nouveau du paprika, ainsi qu'une espèce de porridge fait de farine de maïs qu'on appelle mamaliga et d'aubergine farcie, plat excellent qui porte le nom de impletata. J'en ai noté également la recette pour Mina. Je déjeunais en hâte, car le train partait quelques minutes avant 8h, ou plus exactement, il aurait dû partir quelques minutes avant 8h, mais lorsqu'après une véritable course, j'arrivais à la gare à 7h30, j'attendis plus d'une heure dans le compartiment où je m'étais installé avant que le train ne démarrât. Il me semble que plus on va vers l'est, plus les trains ont du retard. Qu'est-ce que cela doit être en Chine? Nous roulâmes toute la journée à travers un fort beau pays d'aspect varié. Tantôt nous apercevions soit des petites villes, soit des châteaux juchés au sommet de collines escarpées comme on en voit représenté dans les anciens missels. Tantôt nous longions des cours d'eau plus ou moins importants, mais qui tous, à en juger par les larges parapets de pierre qui les bordent, sont sans doute sujets à de fortes crues. À chaque gare où nous nous arrêtions, les quais fourmillaient de gens vêtus de costumes de toutes sortes. Les uns ressemblaient tout simplement à des paysans, comme on en voit chez nous, ou en France, ou en Allemagne. Ils portaient des vestes courtes sur des pantalons de coupe assez grossières et des chapeaux ronds. Mais d'autres groupes étaient des plus pittoresques. Les femmes paraissaient jolies, pour autant que vous ne les voyiez pas de trop près, mais la plupart étaient si fortes qu'elles n'avaient pour ainsi dire pas de taille. Toutes portaient de volumineuses manches blanches et de larges ceintures garnies de bandes de tissus d'autres couleurs et qui flottaient tout autour d'elles, au-dessus de leurs jupes. Les Slovaques étaient bien les plus étranges de tous, avec leurs grands chapeaux de cow-boy, leurs pantalons bouffants d'un blanc sec, leurs chemises de lin blanc et leurs lourdes ceintures de cuir, hautes de près d'un pied et cloutées de cuivre. Ils étaient chaussés de hautes bottes dans lesquelles ils rentraient le bas de leurs pantalons, leurs longs cheveux noirs et leur épaisse moustache noire ajoutaient encore à leur aspect pittoresque, mais sans leur donner en vérité un air très agréable. Si j'avais voyagé en diligence, je les aurais pris aisément pour des brigands, bien que, m'a-t-on dit, ils ne fassent jamais de mal à personne. Au contraire, ils sont plutôt pusillanimes. Il faisait déjà nuit lorsque nous arrivâmes à Bistritz, qui, je l'ai dit, est une vieille ville au passé intéressant située presque à la frontière. En effet, en quittant Bistritz, il suffit de franchir le col de Borgo pour arriver en Bukovine. Elle a connu des périodes orageuses dont elle porte encore les marques. Il y a 50 ans, de grands incendies la ravagèrent coup sur coup. Au début du XVIIe siècle, elle avait soutenu un siège de 3 semaines, perdu 13 000 de ses habitants, sans parler de ceux qui tombèrent victimes de la famine et de la maladie. Le comte Dracula m'avait indiqué l'hôtel de la Couronne d'Or. Je fus ravi de voir que c'était une très vieille maison, car naturellement je souhaitais connaître autant que possible les coutumes du pays. De toute évidence, on m'attendait. Lorsque j'arrivais devant la porte, je me trouvais en face d'une femme d'un certain âge, au visage plaisant, habillée comme les paysannes de l'endroit, d'une blouse blanche et d'un long tablier de couleur qui enveloppait et moulait le corps. Elle s'inclina et me demanda aussitôt « Vous êtes le monsieur anglais ?»« Oui, » me répondis-je. « Jonathan Harker. » Elle sourit et dit quelque chose à un homme en manche de chemise qui l'avait suivi. Il disparut, mais revint aussitôt et me tendit une lettre. Voici ce que je lus. Mon ami, soyez le bienvenu dans les Carpates. Je vous attends avec impatience. Dormez bien cette nuit. La diligence part pour la Bukovine demain après-midi à 3 heures. Votre place est retenue. Ma voiture vous attendra au col de Borgo pour vous amener jusqu'ici. J'espère que depuis Londres votre voyage s'est bien passé et que vous vous féliciterez de votre séjour dans mon beau pays. Très amicalement, Dracula. 4 mai. Le propriétaire de l'hôtel avait lui aussi reçu une lettre du comte lui demandant de me réserver la meilleure place de la diligence. Mais lorsque je voulus lui poser certaines questions, il se montra réticent et prétendit ne pas bien entendre l'allemand que je parlais. Un mensonge, assurément, puisque jusque-là, il l'avait parfaitement compris, à en juger en tout cas par la conversation que nous avions eue lors de mon arrivée chez lui. Lui et sa femme échangèrent des regards inquiets, puis il me répondit en bafouillant que l'argent pour la diligence avait été envoyé dans une lettre et qu'il ne savait rien de plus. Quand je lui demandai s'il connaissait le comte Dracula et s'il pouvait me donner certains renseignements au sujet du château, tous les deux se signèrent, déclarèrent qu'ils en ignoraient tout et me firent comprendre qu'ils n'en diraient pas davantage. Comme l'heure du départ approchait, je n'eus pas le temps d'interroger d'autres personnes, mais tout cela me parut fort mystérieux et peu encourageant. Au moment où j'allais partir, la patronne monta à ma chambre et me demanda sur un ton affolé « Devez-vous vraiment y aller ? Oh mon jeune monsieur, devez-vous vraiment y aller ?» Elle était à ce point bouleversée qu'elle avait de la peine à retrouver le peu d'allemand qu'elle savait et le mêlait à des mots qui m'étaient totalement étrangers. Quand je lui répondis que je devais partir tout de suite et que j'avais à traiter d'une affaire importante, elle me demanda encore « Savez-vous quel jour nous sommes ?» Je répondis que nous étions le 4 mai. « Oui, » fit-elle en hochant la tête, « le 4 mai, bien sûr, mais quel jour est-ce » Comme je lui disais que je ne saisissais pas sa question, elle reprit « C'est la veille de la Saint-Georges. » Ignorez-vous que cette nuit, aux 12 coups de minuit, tous les maléfices régneront en maître sur la terre? Ignorez-vous où vous allez et au-devant de quoi vous allez? Elle paraissait si épouvantée que je tentais, mais en vain, de la réconforter. Finalement, elle s'agenouilla et me supplia de ne pas partir, ou du moins d'attendre un jour ou deux. Chose sans doute ridicule, je me sentais mal à mon aise. Cependant, on m'attendait au château, rien ne m'empêchait d'y aller. J'essayais de la relever et lui dis sur un ton fort grave que je la remerciais, mais que je devais absolument partir. Elle se releva, s'essuya les yeux, puis prenant le crucifix suspendu à son cou, elle me le tendit. Je ne savais que faire, car élevé dans la religion anglicane, j'avais appris à considérer de telles habitudes comme relevant de l'idolâtrie, et pourtant j'aurais fait preuve, me semblait-il, d'impolitesse en repoussant ainsi l'offre d'une dame âgée qui ne me voulait que du bien et qui vivait à cause de moi des moments de véritable angoisse. Elle lut sans doute sur mon visage l'indécision où je me trouvais. Elle me passa le chapelet autour du cou en me disant simplement « Pour l'amour de votre mère ». Puis elle sortit de la chambre. J'écris ces pages de mon journal en attendant la diligence qui, naturellement, est en retard, et la petite croix pend encore à mon cou. Est-ce la peur qui agitait la vieille dame, ou les effrayantes superstitions du pays, ou cette croix elle-même? Je ne sais, mais le fait est que je me sens moins calme que d'habitude. Si jamais ce journal parvient à Mina avant que je ne la revoie moi-même, elle y trouvera du moins mes adieux. Voici la diligence. 5 mai. Au château. La pâleur grise du matin s'est dissipée peu à peu. Le soleil est déjà haut sur l'horizon qui apparaît comme découpé par des arbres ou des collines sans que je puisse le préciser car il est si lointain que toutes choses, grandes et petites, s'y confondent. Je n'ai plus envie de dormir et puisqu'il me sera loisible demain de me lever quand je le voudrai, je vais écrire jusqu'à ce que je me rendorme car j'ai beaucoup de choses étranges à écrire. Et pour que le lecteur ne croie point que j'ai fait un trop bon repas avant de quitter Bistritz, qu'il me permette de lui en donner exactement le menu. On me servit ce qu'on appelle ici un steak de brigand. Quelques morceaux de lard accompagnés d'oignons, de bœuf et de paprika, le tout enroulé sur des petits bâtons et rôti au-dessus de la flamme, tout simplement comme à Londres nous faisons des abats de viande de boucherie. Je bus du médiage doré, vin qui vous pique légèrement la langue, mais, ma foi, ce n'est pas désagréable du tout. J'ai pris seulement 2 verres. Lorsque je montai dans la diligence, le conducteur n'était pas encore sur son siège, mais je le vis qui s'entretenait avec la patronne de l'hôtel. Sans aucun doute, il parlait de moi, car, de temps à autre, il tournait la tête de mon côté. Des gens assis sur le banc près de la porte de l'hôtel se levèrent, s'approchèrent d'eux, écoutant ce qu'ils disaient, puis à leur tour me regardèrent avec une visible pitié. Pour moi, j'entendais souvent les mêmes mots qui revenaient sur leurs lèvres, des mots que je ne comprenais pas. D'ailleurs, ils parlaient plusieurs langues. Aussi, ouvrant tout tranquillement mon sac de voyage, j'y pris mon dictionnaire polyglotte et cherchai la signification de tous ces mots étranges. J'avoue qu'il n'y avait pas là de quoi me rendre courage, car je m'aperçus par exemple que « Herdok » signifie « Satan ». Pokol, enfer, Stregoïka, sorcière, Vrolok et Volkoslak, quelque chose comme vampire ou loup-garou, en 2 dialectes différents. Quand la diligence se mit en route, les gens qui, devant l'hôtel, s'étaient rassemblés, de plus en plus nombreux, firent tous ensemble le signe de la croix, puis dirigèrent vers moi l'index et le majeur. Non sans quelques difficultés, je parvins à me faire expliquer par un de mes compagnons de voyage ce que ces gestes signifiaient. Il voulait me défendre ainsi, me dit-il, contre le mauvais œil. Nouvelle plutôt désagréable pour moi qui partais vers l'inconnu. Mais, d'autre part, tous ces hommes et toutes ces femmes paraissaient me témoigner tant de sympathie, partager le malheur où ils me voyaient déjà, que j'en fus profondément touché. Je n'oublierai jamais les dernières images que j'emportai de cette foule bigarrée rassemblée dans la cour de l'hôtel, cependant que chacun se signait sous la large porte cintrée à travers laquelle je voyais, au milieu de la cour, les feuillages des lauriers roses et des orangers plantés dans des caisses peintes en vert. Le cocher, dont les larges pantalons cachaient presque le siège tout entier, le siège, cela se dit, kozza, fit claquer son fouet au-dessus de ses 4 chevaux attelés de front et nous sommes partis. La beauté du paysage me fit bientôt oublier mes angoisses, mais je ne pense pas que j'aurais pu m'en débarrasser aussi aisément si j'avais saisi tous les propos de mes compagnons. Devant nous s'étendaient des bois et des forêts avec, çà et là, des collines escarpées au sommet desquelles apparaissait un bouquet d'arbres ou quelques fermes dont le pignon blanc surplombait la route. Partout, les arbres fruitiers étaient en fleurs, véritables éblouissement de pommiers, de pruniers, de poiriers, de cerisiers, et l'herbe des vergers que nous longions scintillait de pétales tombés. Contournant ou montant les collines, la route se perdait dans des méandres d'herbes vertes où se trouvait comme enfermée entre deux lisières de bois de pin. Cette route était des plus mauvaises, et pourtant nous roulions à toute vitesse, ce qui m'étonnait beaucoup. Sans doute le conducteur voulait-il arriver à Borgo Prunt sans perdre son temps. On m'apprit que la route en été était excellente, mais qu'elle n'avait pas encore été remise en état après les chutes de neige de l'hiver précédent. À cet égard, elle différait des autres routes des Carpates. De tout temps, en effet, on a eu soin de ne pas les entretenir, de peur que les Turcs ne s'imaginent qu'on prépare une invasion et qu'ils ne déclarent aussitôt la guerre qui, à vrai dire, est toujours sur le point d'éclater. Au-delà de ces collines s'élevaient d'autres forêts et les grands pics des Carpates même. Nous les voyions à notre droite et à notre gauche, le soleil d'après-midi illuminant leurs tons déjà splendides, bleu foncé et pourpre dans le creux des hauts rochers, vert et brun là où l'herbe recouvrait légèrement la pierre, puis c'était une perspective sans fin de rocs découpés et pointus qui se perdaient dans le lointain où surgissaient des sommets neigeux. Quand le soleil commença à décliner, nous vîmes ici et là, dans les anfractuosités des rochers, étinceler une chute d'eau. Nous venions de contourner le flanc d'une colline et j'avais l'impression de me trouver juste au pied d'un pic couvert de neige lorsqu'un de mes compagnons de voyage me toucha le bras et me dit en se signant avec ferveur « Regardez, ist unser, le trône de Dieu ». Nous continuâmes notre voyage qui me paraissait ne jamais devoir finir. Le soleil, derrière nous, descendait de plus en plus sur l'horizon et les ombres du soir peu à peu nous entourèrent. Cette sensation d'obscurité était d'autant plus nette que, tout en haut, les sommets neigeux retenaient encore la clarté du soleil et brillaient d'une délicate lumière rose. De temps à autre, nous dépassions des Tchèques et des Slovaques vêtus de leurs fameux costumes nationaux, et je fis une pénible remarque. La plupart étaient goitreux. Des croix s'élevaient au bord de la route, et chaque fois que nous passions devant l'une d'elles, tous les occupants de la diligence se signaient. Nous vîmes aussi des paysans ou des paysannes à genoux devant des chapelles. Ils ne tournaient même pas la tête en entendant approcher la voiture. Ils étaient tout à leur dévotion et n'avaient plus, eût-on dit, ni yeux ni oreilles pour le monde extérieur. Presque tout était nouveau pour moi. Les meules de foin dressées jusque dans les arbres, les nouveaux saules pleureurs avec leurs branches qui brillaient comme de l'argent à travers le vert délicat des feuilles. Parfois, nous rencontrions une charrette de paysans, longue et sinueuse, comme un serpent, sans doute pour épouser les accidents de la route. Des hommes s'y étaient installés, qui rentraient chez eux. Les Tchèques étaient couverts de peaux de mouton blanches, les Slovaques de peaux de mouton teintes, ces derniers portant leurs longues haches comme si c'eût été des lances. La nuit s'annonçait froide, et l'obscurité semblait plonger dans une brume épaisse, chênes, hêtres et sapins, tandis que dans la vallée au-dessous de nous, qui maintenant montions vers le col de Borgo, les sapins noirs se détachaient sur un fond de neige récemment tombé. Parfois, quand la route traversait une sapinière qui semblait se refermer sur nous, de gros paquets de brouillard nous cachaient même les arbres, et c'était pour l'imagination quelque chose d'effrayant. Je me laissais de nouveau gagner par l'épouvante que j'avais déjà éprouvée à la fin de l'après-midi. Dans les Carpates, le soleil couchant donne aisément des formes fantastiques aux nuages qui roulent au creux des vallées. Les collines étaient parfois si escarpées que, malgré la hâte qui animait notre conducteur, les chevaux étaient obligés de ralentir le pas. Je manifestais le désir de descendre et de marcher à côté de la voiture, comme en pareil cas c'est la coutume dans notre pays, mais le cocher s'y opposa fermement. « Non, non, me dit-il, ici il ne faut pas faire à pied même un bout de route, les chiens sont bien trop dangereux. » Et il ajouta, ce qu'il considérait évidemment comme une sombre plaisanterie, car il consulta du regard tous les voyageurs l'un après l'autre pour s'assurer sans doute de leur sourire approbateur, « Croyez-moi, Vous en aurez eu suffisamment de tout ceci quand vous irez au lit ce soir. » Il ne s'arrêta que lorsqu'il lui fallut allumer ses lampes, alors les voyageurs devinrent fort excités, chacun ne cessait de lui adresser la parole, le pressant à ce que je pus comprendre de rouler plus vite. Il se mit à faire claquer son fouet sans pitié sur le dos des chevaux, et à l'aide de cris et d'appels, les encouragea à monter la côte plus rapidement. À un moment, je crus distinguer dans l'obscurité une pâle lueur devant nous. Mais ce n'était sans doute rien d'autre chose qu'une crevasse dans les roches. Cependant, mes compagnons se montraient de plus en plus agités. La diligence roulait follement, ses ressorts grinçaient et elle penchait d'un côté puis de l'autre comme une barque sur une mer démontée. Je dus me retenir à la paroi. Cependant, la route se fit bientôt plus régulière et j'eus alors l'impression que nous volions bel et bien. Elle devenait aussi plus étroite, les montagnes d'un côté et de l'autre se rapprochaient et semblaient à vrai dire nous menacer. Nous traversions le col de Borgo. Tour à tour, mes compagnons de voyage me firent des présents, gousses d'ail, roses sauvages séchées, et je vis parfaitement qu'il n'était pas question de les refuser. Certes, ces cadeaux étaient tous plus bizarres les uns que les autres, mais ils me les offraient avec une simplicité vraiment touchante en répétant ces gestes mystérieux qu'avaient fait les gens rassemblés devant l'hôtel de Bistritz. Le signe de la croix et les deux doigts tendus pour me protéger contre le mauvais œil. Le conducteur se pencha en avant, sur les deux bancs de la diligence, les occupants tendaient le cou pour examiner le rebord extérieur. De toute évidence, ils s'attendaient à voir surgir quelque chose dans la nuit. Je leur demandai de quoi il s'agissait, mais aucun ne voulut me donner la moindre explication. Cette vive curiosité persista un bon moment. Enfin, nous parvînmes sur le versant est du col. Des nuages noirs s'amoncelaient. Le temps était lourd, comme si un orage allait éclater. On eût dit que, des deux côtés de la montagne, l'atmosphère était différente et que nous étions maintenant dans une région dangereuse. Pour moi, je cherchais des yeux la voiture qui devait me conduire chez le comte. Je m'attendais d'un moment à l'autre à apercevoir ses lumières, mais la nuit demeurait d'un noir d'encre. Seuls les rayons de nos lampes cahotantes projetaient des lueurs dans lesquelles s'élevait l'haleine fumante des chevaux. Elle nous permettait de distinguer la route blanche devant nous, mais nulle trace d'autre voiture que la nôtre. Mes compagnons, avec un sourire de soulagement, reprirent une position plus confortable. Je le ressentis comme une raillerie. Ils se moquaient de mon propre désappointement. Je réfléchissais à ce que j'allais faire en cette situation embarrassante quand le conducteur consulta sa montre et dit aux autres voyageurs quelques mots qu'il me fut impossible de saisir, mais j'en devinai la signification. « Une heure de retard. » Puis se tournant vers moi, il me conseilla, dans un allemand encore plus mauvais que le mien, « Aucune voiture en vue. C'est ce que l'on n'attend pas, monsieur. Continuez le voyage avec nous jusqu'en Bukovine, et vous reviendrez ici demain ou après-demain. Cela vaudra mieux. » Tandis qu'il parlait, les chevaux se mirent à hennir et à ruer, et l'homme les maîtrisa à grand-peine. Puis tandis que tous mes voisins poussaient des cris d'effroi et se signaient, une calèche attelée de 4 chevaux arriva derrière nous, nous dépassa presque, mais s'arrêta à côté de la diligence. À la lueur de nos lampes, je vis que les chevaux étaient splendides d'un noir de charbon. Celui qui les conduisait était un homme de haute taille, doté d'une longue barbe brune et coiffé d'un large chapeau noir qui nous cachait son visage. Au moment même où il s'adressait à notre conducteur, je distinguais pourtant ses yeux si brillants que, dans la clarté des lampes, ils semblaient rouges. « Vous êtes bientôt ce soir, mon ami, » lui dit-il. L'autre répondit sur un ton mal assuré, « Mais ce monsieur qui est anglais était pressé. » « Voilà pourquoi, je suppose, » répliqua le nouveau venu, « vous vouliez l'emmener jusqu'en Bukovine ?»« Non, mon ami, impossible de me tromper, j'en sais trop et mes chevaux sont rapides. » Il souriait en parlant, mais l'expression de son visage était dure. Il était maintenant tout près de la voiture, on voyait ses lèvres, très rouges, ses dents pointues, blanches comme de l'ivoire. Un voyageur murmura à l'oreille de son voisin le vers fameux de Lénore de Bourgueur. « denn die Toten reiten schnell, car les morts vont vite. » Le cocher de la calèche l'entendit certainement, car il regarda le voyageur avec, de nouveau, un étrange sourire. L'autre détourna la tête tout en se signant et en tendant deux doigts. « Qu'on me donne les bagages de monsieur, » reprit le cocher, et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, mes valises passèrent de la diligence dans la calèche. Puis je descendis moi-même de la diligence, et comme l'autre voiture se trouvait tout à côté, le cocher m'aida en me prenant le bras d'une main qui me sembla d'acier. Cet homme devait être d'une force prodigieuse. Sans un mot, il tira sur les rênes, les chevaux firent demi-tour, et nous roulâmes à nouveau et à toute vitesse dans le col de Borgo. En regardant derrière moi, je vis encore à la lueur des lampes de la diligence fumer les naseaux des chevaux et se dessinèrent une dernière fois à mes yeux les silhouettes de ceux qui jusque-là avaient été mes compagnons de voyage. Ils se signaient. Alors le conducteur fit claquer son fouet et les chevaux prirent la route de la Bucovine. Comme il s'enfonçait dans la nuit noire, je frissonnais et me sentis en même temps affreusement seul, mais aussitôt, un manteau fut jeté sur mes épaules, une couverture de voyage fut étendue sur mes genoux, et le cocher me dit en un excellent allemand « Mauvais temps, mein Herr !» Et le comte, mon maître, m'a recommandé de veiller à ce que vous ne preniez pas froid. Le flacon de Slivovitz, l'eau de vie de la région, est là, sous le siège, si vous en avez besoin. Je n'en pris pas une goutte, mais ce m'était déjà un réconfort de savoir qu'il y en avait dans la voiture. Mon inquiétude, cependant, était loin de se calmer. Au contraire, je crois que, si j'en avais eu la possibilité, j'aurais interrompu ce voyage de plus en plus mystérieux. La calèche, elle roulait de plus en plus vite, tout droit. Soudain, elle tourna brusquement, prit une autre route, de nouveau toute droite. Il me semblait que nous passions et repassions toujours au même endroit. Aussi y appliquai-je mon attention, essayant de retrouver tel ou tel point de repère, et je m'aperçus que je ne m'étais pas trompé. J'aurais voulu demander au cocher ce que cela signifiait, toutefois je préférais me taire, me disant que, dans la situation où j'étais, j'aurais beau protester s'il avait reçu l'ordre de traîner en route. Bientôt, cependant, j'eus envie de savoir l'heure, et je fis craquer une allumette afin de consulter ma montre. Il était près de minuit. Je tressaillis d'horreur. Sans doute les superstitions à propos de tout ce qui se passe à minuit m'impressionnaient-elles davantage après les événements insolites que je venais déjà de vivre. Qu'allait-il arriver maintenant? Un chien se mit à hurler au bas de la route, sans doute dans une cour de ferme. On eût dit un hurlement de peur qui se prolongeait. Il fut repris par un autre chien, puis par un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que, porté par le vent qui maintenant gémissait à travers le col, ses cris, sauvages et sinistres, parussent venus de tous les coins du pays. Il montait dans la nuit, d'aussi loin que l'imagination pouvait le concevoir. Aussitôt, les chevaux se cabrèrent, mais le cocher les rassura en leur parlant doucement. Ils se calmèrent, mais ils tremblaient et suaient, comme s'ils avaient fait une longue course au galop. Ce fut alors que, des montagnes les plus éloignées, nous entendîmes des hurlements plus impressionnants, encore plus aigus et plus forts en même temps, des loups. Je fus sur le point de sauter de la calèche et de m'enfuir, tandis que les chevaux se cabraient et ruaient à nouveau. Le cocher n'eut pas trop de toute sa force pour les empêcher de s'emballer. Mes oreilles, pourtant, s'accoutumèrent bientôt à ces cris et les chevaux laissèrent le cocher descendre de la voiture et venir se placer devant eux. Il les caressa, les tranquillisa, leur murmura toutes sortes de mots gentils, et l'effet fut extraordinaire. Aussitôt, quoique ne cessant pas de trembler, ils obéirent au cocher qui remonta sur son siège, reprit les rênes et repartit à toute allure. Cette fois parvenu de l'autre côté du col, il changea de direction et prit une route étroite qui s'enfonçait vers la droite. Bientôt, nous fûmes entre deux rangées d'arbres qui, à certains endroits, formaient réellement une voûte au-dessus du chemin, si bien que nous avions l'impression de traverser un tunnel. Et de nouveau, de part et d'autre, de grands rochers nous gardaient, sans rien perdre cependant de leur air menaçant. abrités de la sorte, nous entendions toutefois le vent siffler et gémir entre ces rochers et les branches des arbres s'agitaient violemment. Il faisait pourtant de plus en plus froid, une neige très fine commençait à tomber. Il ne fallut pas bien longtemps pour que tout fût blanc autour de nous. Le vent nous apportait encore des hurlements de chiens, encore qu'ils nous parvinssent de plus en plus faibles à mesure que nous nous éloignions. Mais à entendre les loups, on eût dit au contraire qu'eux se rapprochaient sans cesse, qu'ils finiraient par nous entourer complètement. J'en étais, je l'avoue, fort effrayé, et je voyais que l'inquiétude recommençait à s'emparer des chevaux également. Le cocher cependant restait parfaitement calme, regardant à gauche puis à droite comme si de rien n'était. J'avais beau essayer de distinguer quelque chose dans l'obscurité, je n'y parvenais pas. Et tout à coup, assez loin sur notre gauche, j'aperçus une petite flamme bleue qui vacillait. Le cocher dut la voir en même temps que moi, car aussitôt il arrêta les chevaux, sauta à terre et disparut dans la nuit. Je me demandais ce que j'allais faire. Les loups hurlaient de plus en plus près de la voiture. J'hésitais encore quand le cocher réapparut soudain et, sans dire un mot, remonta sur son siège et se remit en route. Peut-être m'étais-je endormi et cet incident ne cessait-il de m'obséder en rêve, car il me semblait qu'il se renouvelait indéfiniment. Oui, quand j'y pense maintenant, j'ai l'impression d'avoir fait un cauchemar horrible. À un moment donné, la flamme bleue jaillit si près de nous sur la route qu'elle me permit, dans l'obscurité profonde, de suivre chacun des gestes du cocher. Il se dirigea d'un pas rapide vers l'endroit où brillait la flamme, éclat bien faible malgré tout, puisque c'est à peine si l'on distinguait le sol alentour, ramassa quelques pierres qu'il entassa de manière assez étrange. Une autre fois, un effet d'optique à peine croyable se produisit. Se tenant entre la flamme et moi, il ne me la cachait pourtant pas le moins du monde. Je continuais à voir parfaitement la lueur vacillante et mystérieuse. J'en restais un moment stupéfait. Mais je me dis bientôt qu'à force de vouloir percer l'obscurité, mes yeux m'avaient trompé. Alors nous roulâmes un bon moment sans plus apercevoir de flammes bleues, mais les loups hurlaient toujours, comme s'ils nous encerclaient, et comme si leur cercle avançait avec notre calèche. Le cocher mit de nouveau pied à terre et cette fois s'éloigna davantage. Pendant son absence, les chevaux tremblèrent encore plus fort qu'ils ne l'avaient fait jusque-là, commencèrent à s'ébrouer, à hennir de peur. Je cherchais en vain la cause de cet effroi, puisque justement plus aucun loup ne hurlait, quand soudain la lune, qui voguait à travers les gros nuages noirs, apparut derrière le sommet dentelé d'un pic d'une hauteur impressionnante, et je vis, à sa lueur blafarde, les loups qui nous entouraient, montrant leurs dents blanches et leur langue rouge et le poil hérissé. Dans ce silence menaçant, ils étaient 100 fois plus effrayants que lorsqu'ils hurlaient. Je commençais à mesurer le danger que je courais. La peur me paralysait. Puis tout à coup, ils recommencèrent à pousser leurs hurlements, comme si le clair de lune avait sur eux quelque effet particulier. Les chevaux se démenaient d'impatience, promenaient autour d'eux des regards à faire pitié, mais le cercle vivant, le cercle d'horreur, restait fermé autour d'eux. J'appelai le cocher, je lui criai de revenir. Il me semblait que la seule chance qui me restait était d'essayer de briser le cercle pour faciliter son retour. Je criai donc encore et frappai sur la portière de la voiture, espérant effrayer les loups qui se trouvaient de ce côté-là et permettre ainsi à l'homme d'approcher. Comment il fut là, je n'en sus rien. Mais j'entendis sa voix autoritaire, et regardant dans la direction d'où elle venait, je le vis au milieu de la route, tandis que de ses longs bras, il faisait le geste de repousser un obstacle invisible. Les loups reculaient, peu à peu. À ce moment, un gros nuage couvrit la lune, et de nouveau, l'obscurité fut complète. Lorsque mes yeux y furent accoutumés, je vis que le cocher remontait dans la calèche et que les loups avaient disparu. Et tout cela était si étrange, si inquiétant, que je n'osais ni parler ni faire un seul mouvement. Le voyage me sembla interminable dans la nuit que la lune n'éclairait même plus. Nous continuions à monter, et la route monta encore longtemps, bien que parfois, mais rarement, la voiture prit de courtes descentes rapides pour aussitôt gravir une nouvelle côte, Tout à coup, je m'aperçus que le cocher faisait entrer les chevaux dans la cour d'un grand château en ruine. Des hautes fenêtres obscures ne s'échappaient aucun ray de lumière. Les vieux créneaux se découpaient sur le ciel, où la lune, en ce moment, triomphait des nuages